sont les raisons qui nous poussent à croire que tout d'un coup les médias ont des effets forts sur les gens?
Sciences Po Ex et les étudiants du Master Métiers de l'Information vous présentent Révolution numérique, un podcast réflexif pour mieux comprendre et interroger les enjeux numériques de l'information. Pour cette deuxième saison, on ne pouvait pas passer à côté des mobilisations anti-pass sanitaires qui ont rythmé nos samedis, tout en vous proposant un éclairage singulier. Et si on arrêtait ensemble d'interroger ces mobilisations sous le seul prisme de l'opposition au vaccin, pour prendre le temps de réfléchir aux enjeux sociaux et politiques que l'usage massif d'une série d'applications numériques dédiées au stockage, mais aussi au traçage de nos données soulève.
2021, saison 2 du Covid-19, marquée par plusieurs épisodes. Ceux du pass sanitaire et des manifestations anti-pass auront marqué les esprits.
Le problème, c'est qu'il y a des données sensibles. Là, ce sont des experts en cybersécurité. Quand on regarde le QR code, on voit qu'il y a le nom du vaccin, le nombre de doses que vous avez eues, les dates d'injection, etc.
On est passé très rapidement d'un scandale Cambridge Analytica à un scandale Facebook. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque des faits, Facebook autorise parfaitement cette aspiration de données personnelles.
And I'm really sorry that this happened. We have a basic responsibility to protect people's data.
Cette lanceuse d'alerte américaine, Frances Haugen.
Oui, une ancienne cadre de Facebook. Elle avait révélé le fonctionnement interne de la société en accusant Facebook de faire passer le profit avant la sécurité de ses utilisateurs.
Prends des pièces, prends des pièces, prends des pièces.
Hello les filles, je dois trop vous expliquer un truc. Ma petite sœur m'a dit tout à l'heure qu'elle a donné son QR code à une entreprise privée pour avoir son pass sanitaire sur une carte Pokémon.
Ah, mais trop bizarre! Mais attends, c'est pas elle qui était contre le pass à cause de la question de la protection des données personnelles?
Ouais, justement. Elle est même allée manifester samedi passé contre le pass sanitaire. Elle pense que le gouvernement n'a pas à nous imposer de donner ce genre d'informations personnelles pour rentrer dans un bar ou aller au cinéma.
Ouais, bizarre quand même, c'est paradoxal. Elle permet à des étrangers d'avoir accès à ces données privées, mais elle refuse que le gouvernement y ait accès.
Bienvenue à toutes et à tous dans ce premier épisode de la deuxième saison du podcast de Révolution numérique, réalisé par les étudiants de Sciences Po Ex. Moi c'est Merveille, et avec Marianne et Soline, nous avons décidé de vous parler du pass sanitaire et de la question des données personnelles. Dans ce podcast, on essaiera de voir comment les individus envisagent l'utilisation de leurs données.
On peut constater qu'on a tendance à demander la protection de nos données personnelles, mais qu'en même temps, on donne toutes ces informations à des entreprises et sociétés privées. Comment est-ce qu'on peut donc expliquer la contradiction entre ces deux types de comportements ?
Ah, les données personnelles ! Depuis quelques années, elles attirent l'attention de nombreuses personnes et sont souvent sujets de débat. On l'a vu récemment avec le scandale de Cambridge Analytica en 2014. Les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs Facebook ont été exploitées par cette entreprise. Les informations récoltées ont permis d'influencer les intentions de vote des électeurs pour les présidentielles américaines.
Depuis l'éclatement de ce scandale, on peut voir la prise en main de cette question des données privées par l'Union européenne, par exemple. En effet, en 2016, elle a adopté le règlement général sur la protection des données, qui constitue un texte de référence.
Plus récemment, on pense aux révélations de la lanceuse d'alerte Frances Haugen. Celle-ci a dénoncé le fonctionnement des algorithmes Facebook qui ont joué un rôle dans l'assaut du Capitole américain en janvier 2021 par les partisans de Trump.
En fait, tout ça me fait aussi penser à un scandale lié à WhatsApp qui a eu lieu l'année passée. La plateforme avait annoncé en début d'année la mise en place de nouvelles conditions d'utilisation, ce qui a suscité pas mal de craintes et d'incompréhension chez les nouveaux utilisateurs. Ces nouvelles règles leur imposent de partager leurs données avec Facebook, la maison mère de WhatsApp. Ça a fait scandale alors que pour plein d'autres applications qui ne demandaient pas d'accord, ça ne posait aucun souci. On voit bien qu'on ne remet en question les conditions d'utilisation que lorsqu'elles sont clairement exposées.
Nos données sont utilisées, c'est un fait. Si Google, Facebook et les autres géants du web arrivent à nous fournir des services que nous jugeons efficaces, c'est bien grâce aux milliards de données et traces que nous laissons tous les jours en naviguant sur ces applications.
Justement, dans les manifestations anti-pass, certaines personnes sont là pour dénoncer un non-respect de la vie privée à cause des données personnelles que le pass mobilise.
D'un autre côté, si on y regarde un peu plus près, pour beaucoup, le problème, c'est pas tellement l'utilisation de Facebook en soi, mais plutôt l'absorption de nos données par ce réseau social.
Comment alors analyser, penser cette réaction ambivalente de certains individus face à l'absorption de leurs données par Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, bref, les entreprises comme les GAFAM d'une part, et par l'État d'autre part?
Pour mieux comprendre ces mécanismes, nous avons interrogé Julien Rossi, enseignant, chercheur et surtout expert en protection des données à caractère personnel.
Dans la littérature académique, il y a quelque chose qui s'appelle le paradoxe de la vie privée, qui s'énonce de la façon suivante. Lorsque nous interrogeons à peu près n'importe quel public en lui demandant si jamais la vie privée ou la protection de la vie privée est importante pour les membres de ce public, alors la réponse est majoritairement que c'est très important. Et lorsque l'on demande qui utilise, par exemple, des réseaux sociaux ou d'autres applications qui sont gourmandes en données à caractère personnel, alors on se rend compte que les mêmes personnes qui disent accorder une grande importance à leur vie privée utilisent ce type de service peu scrupuleux, justement, à l'égard de la vie privée.
Axel Leguet, professeur à l'Université catholique de Louvain et expert en cybersécurité, nous explique ce paradoxe.
Donner ces données privées à des sociétés comme Facebook et autres, c'est beaucoup plus dangereux de mon point de vue que de les donner à l'État. Mais du point de vue des concitoyens, c'est l'inverse qui est perçu. Et c'est assez normal, en fait, parce que pour ce qui est Facebook, réseaux sociaux ou autres, vous êtes les demandeurs. Donc, vous êtes demandeur d'un service et ce service vous est rendu par ces sociétés d'une façon, on va dire, assez amicale, sympathique, avec de jolies interfaces. Et donc, on ne voit pas le danger. Tandis que quand c'est l'État, ben, vous n'êtes pas le demandeur, vous êtes l'obligé. Donc, vous êtes dans une situation où vous devez répondre à des exigences sur le pass sanitaire. Vous êtes contraint dans vos libertés par ce pass à cause de la crise sanitaire. Et donc, ben, on vous demande des choses qui ne vous plaisent pas, tout simplement. Et donc, c'est beaucoup plus dur de les donner dans ce contexte-là.
Le concept de désublimation répressive peut expliquer pas mal de choses. Cette notion a été développée dans les années 50 par le philosophe Herbert Marcuse, qui est rattaché à l'école de Francfort. Il s'inspire de Marx, le grand théoricien critique de la société capitaliste.
Mais la désublimation répressive, c'est quoi? J'en ai jamais entendu parler.
Pour Marcuse, ce serait un moyen de contrôle social dans la société capitaliste. L'idée, c'est que les humains, ils ont des désirs de base. Des désirs de réalisation personnelle, des désirs sexuels, etc. Mais que le capitalisme, il va réprimer ces désirs pour satisfaire le principe de rendement. Donc, pour que les gens ne soient pas mécontents de ce système et puissent quand même satisfaire leurs envies, le capitalisme leur offre des alternatives qui se substituent donc au désir naturel.
Oui, c'est ça. Donc, en gros, on transforme le vrai désir humain en un désir fabriqué par le capitalisme, que Marcuse appelle les faux besoins. Donc, en fait, ce qu'on désire, c'est pas le fruit de notre propre imagination, mais plutôt celui du système dans lequel nous vivons. Selon Marcuse, ce système impose des désirs aux gens pour ensuite les satisfaire. C'est comme ça que le système s'auto-entretient.
Mais attendez, pourquoi les gens accepteraient qu'un système leur impose des désirs ?
Le problème central est que l'individu ne perçoit pas distinctement tout ce mécanisme. Il perçoit le système comme étant à son avantage, étant donné qu'il a l'impression que tous ses désirs sont satisfaits.
Oui, et on voit très bien cela avec les technologies du numérique. Les GAFAM se sont rendus indispensables en offrant un nouveau confort de vie aux individus. On les voit comme un facilitateur du quotidien et non pas comme un danger.
Je vois, c'est un peu comme du pain et des jeux à l'Antiquité, un moyen de garder les gens sous contrôle. Il faut donner des distractions aux gens qui sont alors satisfaits et ne remettent pas le système en question.
Ouais, c'est exactement ça.
Mais il y a quand même une différence entre l'État et les GAFAM. L'État formule clairement une nécessité de contrôler le corps des individus dans un but purement sécuritaire, dans le cadre du pass sanitaire. Cette affirmation claire ne se retrouve pas chez les GAFAM qui pourtant exercent ces mêmes logiques de surveillance. Il s'agit alors dans ce cas d'une coercition douce. Cette logique du pouvoir exercé sur les corps des individus est développée par Michel Foucault, à travers son concept de biopouvoir.
Je suis pas sûre d'avoir très bien compris ce concept.
C'est plutôt simple pourtant. Les instances de pouvoir exercent leur autorité sur le corps des individus. Par exemple, quand tu vas à la bibliothèque, tu peux apercevoir des panneaux qui disent d'aller à gauche ou à droite. C'est un bon exemple pour illustrer le concept de biopouvoir. En t'imposant un itinéraire, l'institution, d'une certaine manière, elle a contrôlé ton corps.
Ah ok, je comprends mieux. Mais c'est quoi le lien avec les GAFAM ?
D'après les chercheurs Christophe Bézès et Maria Mercanti-Guerin, Les GAFAM contrôlent aussi notre corps et nos actions via la géolocalisation, la numérisation, leur gestion de nos données personnelles, exactement comme pour les panneaux à la bibliothèque.
Ah, je vois. Tout ça me fait penser à la notion de gouvernementalité développée aussi par Foucault. L'auteur explique que le pouvoir, c'est avant tout des relations. Donc, ce n'est pas de l'imposition top-down, mais plutôt des processus qui se mettent en place à travers des échanges. De cette manière, les individus participent à leur propre gouvernance.
Attendez les filles, cette fois c'est moi qui n'ai pas compris.
En fait, en gros, ce concept concerne une relation de pouvoir qui s'établit entre les individus et le pouvoir.
Oui, c'est ça. Donc, en résumé, le pouvoir de l'État peut s'exercer de différentes façons. L'État exerce son autorité via la gouvernementalité, et les GAFAM font la même chose. Cette fois, on parle de gouvernementalité numérique.
Mais d'ailleurs, il m'est arrivé un truc récemment qui me fait penser à tout ça. Je voulais partir en vacances et du coup, je regarde un peu les différentes destinations sur les sites des compagnies aériennes. Je me dis que Honolulu, ça a l'air vachement sympa, mais bon, j'achète pas le billet de suite, je préfère réfléchir. 5 minutes plus tard, j'ai eu plein de publicités sur les réseaux sociaux d'agences touristiques qui organisent des voyages là-bas. C'est fou quand même, non ?
Les plus gros dealers vendent pas de drogue, ils vendent des données personnelles.
Ce contrôle diffus, pas vraiment assumé ni revendiqué par les GAFAM, a conduit la sociologue Shoshana Zuboff à théoriser la notion de capitalisme de surveillance.
Pour elle, nous avons affaire à un nouveau capitalisme qui remplace celui de l'ère industrielle. Sa particularité est qu'il exploite nos données personnelles pour son profit. Comme le montre l'exemple des billets d'avion, le système tente d'orienter nos comportements d'achat et de consommation. Pour ce faire, on doit savoir ce que les personnes aiment et consomment.
Mais attends, comment ils récoltent ces informations ?
Eh bien, tout simplement en surveillant et en analysant les comportements des individus sur le web. Le problème principal est que tout ce système très intrusif de collecte des données n'est pas palpable.
Difficile donc d'échapper à une surveillance qui n'est pas apparente. On retrouve la même idée chez Marcuse, lorsqu'il nous dit que l'individu ne perçoit pas que ses désirs sont le fruit du système, et non pas de sa propre imagination.
Après, bon, c'est pas parce qu'on participe au système qu'on n'est pas critique face à lui. On se rend évidemment bien compte qu'il y a des soucis avec les GAFAM et leur utilisation de nos données personnelles. Mais on continue quand même à les utiliser, parce que bon, c'est quand même bien pratique. Dans ce morceau, Somebody's Watching Me, de Rockwell, le chanteur explique qu'il se sent épié en permanence. Même lorsqu'il est tranquillement chez lui, il a l'impression de sentir une présence.
Dans le refrain, le chanteur affirme qu'il a le sentiment que quelqu'un l'observe et qu'il n'a plus de vie privée. Il a l'impression que ses voisins, le facteur, les personnes qui parlent à la télé, tout le monde le regarde et c'est tout sur lui.
La chanson date des années 80, et on s'est dit que cette présence permanente ressentie pouvait à notre époque être incarnée par les GAFAM.
Ouais, comme le disaient les chercheurs Christophe Bézès et Maria Mercantilera, ces entreprises savent beaucoup de choses sur nous, nos goûts, nos habitudes, nos passe-temps. Ils sont présents dans tous les aspects de nos vies. Certains le voient comme un avantage et d'autres comme une pression.
Écoute, je n'aime pas te faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te servira à jamais.
On vous conseille le film The Circle avec Tom Hanks et Emma Watson. On va pas vous en dire trop sur le film pour ne pas spoiler, mais en gros, The Circle, c'est une entreprise dans un monde un peu futuriste dans lequel tout le monde sait tout sur tout le monde. May, le personnage principal, partage absolument tout sur son quotidien en se filmant, et du coup, les concepts même de vie privée et de données personnelles sont remis en question.
Tous les aspects de la vie des employés tournent autour de l'entreprise. Ils vivent sur une espèce de campus où tout est mis à leur disposition. La compagnie va même jusqu'à leur implanter une puce pour obtenir leurs données de santé. Et elle fait passer tout ça pour un truc génial. Regardez, on améliore la vie des employés.
Non, mais arrête de spoiler.
Mais on spoile pas, on explique juste les enjeux du film. Ce qui est intéressant, c'est que dans le film, les membres de The Circle pensent que cette situation est à leur avantage. Donc, ils remettent pas du tout le système en question.
Ah oui, oui, ça rappelle bien le concept de désublimation répressive. Je trouve que ça fait réfléchir sur l'importance de l'usage de ces données et de sa vie privée, et des potentielles dérives qui peuvent avoir lieu.
Donc, si on résume tout ce qu'on vient de dire, on est prêt à laisser les GAFAM capter nos données personnelles parce qu'on le perçoit comme étant à notre avantage.
C'est ça. Et ce système qu'on perçoit positivement est directement lié à la notion de biopouvoir. Ce sont bien nos corps qui sont contrôlés, comme on peut le voir avec le capitalisme de surveillance. Ces différents éléments concernent le pouvoir et la manière dont il est exercé, et peuvent donc être directement liés à la notion de gouvernementalité.
Mais la gouvernementalité concerne aussi bien l'État que les GAFAM. Il n'y a pas que l'État qui exerce son pouvoir sur les individus, les géants du web le font également. Des relations de pouvoir se développent et toute une série de processus qui permettent à ce pouvoir de s'exercer se mettent en place.
Par contre, quand c'est l'État qui réclame des données pour le pass sanitaire, beaucoup sont prêts à les manifester, parce qu'ils s'opposent à ce que l'État détienne nos informations.
Actuellement, avec les cookies, le vol de données personnelles des GAFAM et compagnie, cela devient très difficile de savoir comment agir pour protéger nos données personnelles.
On dit souvent que Facebook en sait plus sur nous que notre mère, nos meilleurs amis et notre médecin réuni. C'est sans doute vrai pour beaucoup d'entre nous et on ne remet pas tellement cela en question parce que Facebook, c'est quand même bien pratique.
Il existe aussi des moyens de se prémunir des dangers concernant les données personnelles sur Internet. Par exemple, il existe des moteurs de recherche éthiques et responsables comme Quant qui proposent de ne pas collecter les données de ses utilisateurs ou encore des messageries chiffrées comme Signal ou Telegram.
Et puis, il est intéressant de voir qu'il existe une certaine prise de conscience actuellement. En 2020, un sondage de la Commission nationale de l'informatique et des libertés indiquait que 87% des Français se déclaraient sensibles à l'enjeu de la protection des données. Est-ce que c'est une réelle prise de conscience ou alors un petit sursaut ?
Axel Luguet nous donne son avis sur la question.
Alors c'est comme bien souvent en informatique, tant que ce sera médiatisé et qu'on en parlera, il y aura des discussions et donc des prises de conscience. Et si on n'en parle pas, comme c'est quelque chose qui reste quand même complexe, les citoyens risquent d'oublier assez vite. Tout dépendra de la visibilité qui a donné à cette thématique et de la façon aussi dont c'est traité.
Bon, Mervé, tu devrais sans doute expliquer à ta petite sœur que c'est dangereux de livrer des données personnelles comme le pass sanitaire à n'importe quelle entreprise. Même si, bon, on sait qu'elles n'ont pas nécessairement des intentions malveillantes. C'est important de protéger ces données.
Ouais, tu as raison, je vais lui expliquer notre conversation. Mais je pense qu'elle a déjà compris qu'elle devait faire plus attention à son activité en ligne. Hier soir, elle a encore une fois partagé son pass sanitaire Pokémon sur Twitter et du coup, plein d'internautes l'ont insultée pour son inconscience.
Dans le deuxième épisode de ce podcast de Révolution numérique, Florent et Rémi nous expliqueront justement des enjeux actuels concernant la gestion de la haine en ligne. Nous vous recommandons d'aller l'écouter au plus vite.
Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce premier épisode de la saison 2 du podcast Révolution numérique. Private eyes, they're watching you, they see you.